11h04 de retour dans Trudeau Landry, le bilan du jour qui vient tout juste d'être publié. 808 cas de plus, donc c'est une amélioration en plus par rapport à hier où on était à quoi, 879 nouveaux cas. Bon, par contre, on déplore 10 nouveaux décès. Pour les hospitalisations, moins 8, ça c'est une information qu'on aime bien voir. Et si je regarde rapidement un peu la répartition régionale dans la capitale nationale, 91 cas, ce qui est une amélioration notable. Là, on n'est plus, semble-t-il, dans les eaux du 200. En même temps, il faut se méfier des chiffres du lundi. Hein, souvent, un ralentissement au cours de la fin de semaine. Mauricie, 50 cas. Estrie, 26. Montréal, 207. Outaouais, 15. Chaudière-Appalaches, aussi une belle amélioration. 61 cas, alors qu'on se maintenait autour de 100 au cours des derniers jours.
Mais la tendance, donc le plateau autour de 1000, il n'est pas facile à casser. Là, on est un peu en bas de 1000, mais ce plateau-là semble très, très difficile à casser.
Ouais. Puis,
c'est pour ça qu'on s'attend tantôt, Jonathan, à 17h, à ce que le gouvernement prolonge les mesures annoncées il y a une vingtaine
exact.
De jours. Là.
Et je vous rappelle que selon mes sources, on va avoir un ton plus serein, plus encourageant, mais expliquer aux gens qu'il faudra donner un petit coup de plus encore pour peut-être quoi 2-3 semaines. On verra ce qui sera annoncé. On va aller carrément ailleurs. Un article très intéressant ce matin dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, qui nous parle des accusations liées au proxénétisme. Le nombre d'accusations qui aurait carrément quadruplé depuis 2015, alors qu'on en comptait quoi 103 en 2015, c'est grimpé à 428 en 2019. On va analyser donc le phénomène avec Maria Mourani, que vous connaissez bien, présidente de Mourani Criminologie, qu'on rejoint au bout du fil. Madame Mourani, bonjour.
Bonjour.
Première question que j'ai pour vous, j'ai envie de vous demander, si on dit que le nombre d'accusations a quadruplé entre 2015 et 2019, est-ce qu'on doit s'en réjouir en se disant qu'on est plus proactif ou il n'y a pas aussi une autre lecture qui serait l'effet qu'il y en a davantage, c'est pour ça qu'on en prend plus, qu'on en pogne plus?
Ben non, je vous dirais, c'est parce que on a développé, on est devenu, disons, plus efficace. Est-ce qu'il y en a plus ou moins? Je vous dirais, il y en a toujours trop. l'industrie du sexe est une industrie de milliards de dollars. Donc, c'est pas quelque chose, disons, qui risque de diminuer ou quoi. Mais ce qu'on constate, c'est que non seulement on est plus efficace, que ce soit par exemple au niveau des enquêtes policières, filature, agent double, donc la preuve est plus solide, et en même temps, il y a un bon travail, il y a une expertise qui a été développée dans un partenariat entre les policiers puis les groupes qui s'occupent des victimes. Donc, ils ont beaucoup plus d'expérience de comment être avec la victime, comment l'amener à témoigner, etc. Le témoignage en cours est vraiment plus perfectionné, c'est-à-dire en termes de protection de la victime pour la mettre à l'aise, etc. Donc, tous les outils, si vous voulez, et les techniques, les façons de faire, beaucoup amélioré depuis les 15-20 dernières années, d'une part.
OK.
D'autre part,
oui, allez-y.
D'autre part, vous avez aussi le fait que les lois ont changé. Tout d'abord, 2015, on a eu un changement de la loi sur la prostitution, ce qui fait que maintenant, c'est beaucoup plus facile d'attraper les proxénètes, et aussi, on a criminalisé la clientèle et protégé les victimes. Et en même temps, en 2019, La loi que j'ai faite sur le renversement du fardeau de la preuve, donc pour rendre plus facile les accusations et la confiscation des fruits de la criminalité, a été implantée en 2019. Donc tous ces outils législatifs, les techniques aussi de monter la preuve pour qu'elle soit solide en cours, donc qu'on n'arrête pas juste des gens qui vont se faire soit libérer, soit avec des petites sentences, etc. Donc, tout ça mis ensemble permet d'avoir cette augmentation-là. Donc, moi, je vous dirais, je suis très contente parce que ça prouve que tout le travail qu'on fait depuis 20 ans aboutit à quelque chose.
Vous avez parlé tantôt, Mme Mouriani, de criminaliser la clientèle. Là, ce matin, dans l'article Journal de Montréal, Journal de Québec, on nous présente les proxénètes, là, des accusations qui sont portées contre les pimps, là, si on veut. Il me semble que les clients, est-ce qu'on pourrait fesser plus fort sur les clients aussi,
oui,
en arrêter davantage?
Moi, je pense que c'est ça notre gros problème au Québec.
Ouais.
J'ai bon écouté mes collègues policiers qui me disent « Oui, on travaille là-dessus, on est mieux qu'avant, etc. » Mais moi, jusqu'à présent, là, je vois pas des grands résultats dans les chiffres. On dit les chiffres ne mentent pas. Mm-hmm. Puis les chiffres, là, ils ne disent pas... On voit pas de grandes améliorations ou d'arrestations importantes, mais aussi récurrentes. Ce qu'on voit, c'est de temps en temps, dans les médias, on voit des opérations qui arrêtent un groupe de clients parce qu'on a eu X fugueuses dans le coin, etc. Ça, pour moi, c'est pas forcément représentatif d'une efficacité sur les clients. Normalement, là, si vraiment on s'attaque à la clientèle, parce que c'est le maillon faible, hein, de cette chaîne, si vous voulez, et c'est le maillon le plus efficace. Disons quand on dit le nerf de la guerre là, ouais. C'est eux autres là, le nerf de la guerre. Donc si on s'attaquait comme en Norvège et en Suède là, eux autres ils fessent puis pas à peu près sur la clientèle.
Ah oui.
Oh plus oui, eux autres quand ils sont efficaces, je peux vous le dire. Mais si on avait ce genre d'intervention de manière très très forte au Québec, je peux vous dire que on verrait une baisse assez notoire de la prostitution.
Et aussi le dire, Mme Mourani, premièrement, resserrer les règles, être plus sévère, mais ne pas hésiter à en parler. Je veux dire, on fait des campagnes de sensibilisation pour l'usage de la drogue, pour l'alcool au volant, pour la sécurité routière. Rappelez aux gens que c'est illégal de retenir les services d'une personne pour avoir des services sexuels. Ça serait peut-être pas mauvais aussi de le rappeler et de dire les conséquences qu'on encourt aussi.
Tout à fait. Et je vous dirais, je sais que le rapport de la commission là québécoise là, sur l'exploitation sexuelle, ils vont déposer leur rapport à l'automne là sous peu. Et je sais que ça fait partie des recommandations. Ça a été plusieurs fois dit à la commission comme quoi il faut vraiment faire de la prévention en informant les gens que acheter du sexe au Canada c'est illégal, puis voici les sentences qui sont associées à ce genre de comportement là d'une part. Donc je pense que même à la commission ils se sont rendus compte que le nerf de la guerre c'est vraiment la clientèle, puis qu'il fallait non seulement mettre des ressources pour ça, mais il faut développer une expertise sur ça, parce que vous voyez, parfois quand je parle avec des collègues policiers, ils me disent oui mais c'est pas facile de les poigner, c'est pas aussi facile que les proxénètes. Vous voyez, donc les proxénètes c'est facile de taper dessus, non seulement la loi est faite de telle manière qu'on puisse les poigner beaucoup plus facilement maintenant. Mais pour les clients, c'est toujours plus difficile de démontrer qu'il y a eu l'achat. Vous voyez, le fameux achat de service.
Ouais.
Donc, tout ça, là, fait en sorte que les policiers... Ce que moi, j'entends sur le terrain, c'est plus compliqué. C'est des enquêtes plus fines à faire. Et c'est une expertise. Moi, je pense que c'est juste une expertise à développer, comme on l'a fait au cours des années au Québec, non seulement pour avoir cette vision, si vous voulez... La personne prostituée victime, donc on a changé les façons de penser, mais on a peaufiné les enquêtes pour en arriver comme ça à des accusations et des sentences. Ben, il faut faire la même affaire pour les clients. Moi, je vous donne un exemple. Dans la ville de Québec, vous avez un très bon exemple qui a été l'affaire Scorpion.
Oui.
Je pense qu'ils ont réussi quand même à pogner des clients. Et c'est parmi les enquêtes, c'est parmi les premières enquêtes qu'on voit des accusations de clients avec vraiment des sentences, etc. Bien avant que la loi sur l'achat de services sexuels soit criminalisée. Donc, bien avant la loi, ils ont quand même réussi à pogner des clients. Nous, maintenant, on a la loi qui facilite ça. Qu'est-ce qu'on attend? Vous voyez, donc c'est ça que moi je dis. Il y a une incompréhension ici. C'est illogique. Et en même temps, c'est comme si on a peur d'avoir peur. Moi, je dis qu'il faut rentrer dans le dard, hein, parce qu'au fond, les clients, là, je peux vous dire qu'il y en a un méchant paquet. Et dans oui. Toutes les classes sociales, hein, il y en a... C'est peut-être ça qui fait peur.
C'est ça. Madame Mourani, vous avez parlé tantôt de 2002, l'opération Scorpion au Québec. Je me souviens qu'à l'époque, on expliquait que le recrutement des jeunes filles se faisait, entre autres, dans certaines soirées. On parlait de soirées hip-hop à l'époque. Les gangs de rue qui aussi s'organisaient pour que les jeunes victimes tombent en amour avec le pimp. On les désensibilisait au sexe. On les envoyait aussi danser dans des bars de danseuses. J'imagine qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, puis bon, la technologie s'est invitée là-dedans aussi. J'imagine que le recrutement passe peut-être par là aussi. Mais ça aussi, là, puis moi, je suis d'accord, il faut frapper les clients aussi très fort. Mais éviter le recrutement, c'est-tu possible aussi d'essayer de freiner le recrutement des proxénètes envers les jeunes filles?
C'est possible, mais malheureusement, la jeunesse est ce qu'elle est. Hein. C'est innocent, c'est sensible, ça veut triper. Puis on vit dans une société où on valorise beaucoup l'argent et où on valorise beaucoup des stéréotypes du genre la fille, belle, sexy, femme égale sexe. C'est ça qu'on valorise dans nos sociétés, hein, surtout chez les jeunes. Tout incite les jeunes à l'hypersexualisation. Le corps même des adolescents est hypersexué. Les garçons aussi sont hypersexués. C'est le gars un peu macho. On véhicule beaucoup, même, je vous dirais, le gars pimp. Le gars pimp. Donc, c'est presque valorisé, le pimp. Et de l'autre bord, excusez l'expression, la bitch. Donc, ça, là, c'est très présent dans le milieu jeunesse en général. Et avec tout ça, vous avez l'adolescence. Donc, on a beau faire de la prévention, c'est comme un filet, hein, que vous lancez dans l'océan pour pogner des poissons. Ben, il y a des millions de poissons, ben, vous allez en pogner X nombre. Donc, c'est une minorité de jeunes qui tombent dans le panneau. Mais cette minorité, c'est déjà trop. C'est déjà trop. C'est des vies complètement brisées. Donc, il faut continuer à faire de la prévention, mais il y a un acteur très important qui, quant à moi, devrait non seulement s'informer et agir, c'est les parents. C'est les parents. Et je vais vous dire une affaire. Pour faire de la prévention auprès des jeunes dans les écoles secondaires, et j'ai tenté dans les écoles primaires, j'étais venue faire une conférence dans une école primaire pour parler de prostitution aux jeunes, s'il y avait 20 parents dans la salle, on était bien. Parce que, pour les parents, c'est inimaginable pour eux d'imaginer leur fille de 9, 10, 11 ans pouvoir potentiellement être recrutée dans la prostitution. Et plus vous vous éloignez des sphères, si vous voulez, sociodémographiques pauvres, donc dans les milieux de plus en plus classe moyenne, riche, pour eux, c'est comme ça n'existe pas. Ouais. C'est comme impossible. Vous voyez ? Alors que dans les quartiers où ils sont confrontés à la prostitution, à la pauvreté, qu'ils ont des gangs dans leur quartier, etc., sont un petit peu plus, si vous voulez, allumés par rapport à ça, inquiets, etc. Mais en général, moi, ce que je constate, c'est que les parents, non seulement ont peur de parler de prostitution, mais ils osent même pas parler de sexualité, de pornographie, etc. Et qui sont les premiers protecteurs de leurs enfants? Ben, c'est les parents.
Un mot sur l'encadrement des victimes, parce que je lisais, là, on nous présentait quelques salauds, là, des pimes dans le journal. Puis je voyais, bon, un exemple avait été condamné dès qu'il est sorti de prison, est retourné voir la victime, oui, l'a repris sous son joug, lui a même réclamé un an et demi de salaire, là, tu sais, en perte, si on veut, une espèce de compensation. Et je me disais, est-ce qu'on encadre suffisamment bien les victimes pour s'assurer que lorsque les pimes sortent de prison au bout de peines qui sont, ma foi, souvent pas assez lourdes, là, qu'ils retombent pas sous les griffes de ces gens-là?
Malheureusement, les victimes n'ont pas beaucoup d'aide, déjà en partant. D'une part, comme vous le dites, les sentences, quant à moi, ne sont pas encore assez élevées. Même si on parle d'une moyenne de 5 ans, il faut savoir que la prostitution, c'est carrément comme un meurtre intérieur. Donc, pour moi, il devrait au moins avoir 10-15 ans, ces gars-là. Mais ça, c'est une autre histoire. Par rapport aux victimes, déjà, à la base, il n'y a pas assez de ressources. Pas de ressources au niveau du logement, au niveau de l'aide psychologique. D'ailleurs, un exemple d'aberration, l'IVAC, qui est censé indemniser les victimes d'actes criminels, n'indemnise pas les personnes qui étaient dans la prostitution. Sauf si la personne est victime d'un individu qui aurait fait des voies de fait, tentative de meurtre, etc. Mais si c'était du proxénétisme, sans qu'il y ait d'autres accusations, elles n'avaient pas le droit à l'IVAC, à l'aide psychologique, etc. Ça va changer avec les recommandations de cette commission-là aussi, normalement. Donc, vous voyez, déjà à la base, il n'y a pas beaucoup de ressources pour les victimes. Alors, imaginez une personne, puis ça, beaucoup de filles me le disent, elle dit, moi, là, depuis que j'ai 14 ans, j'ai quitté l'école, j'ai jamais travaillé de ma vie, j'ai jamais payé un bill, c'est lui qui faisait tout. Tout ce que je connais, c'est la prostitution. Donc, quand je suis sortie du milieu, donc opération policière ou autre, on me sort du milieu, qu'est-ce qui me reste? Je n'ai rien. Mais en plus de ça, je n'ai pas d'aide. Donc, vous savez, on a beaucoup, par exemple, au Québec, de ressources de logement pour les femmes en violence conjugale, violence familiale. Mais au niveau de la prostitution, on n'en a pas. Il y a une ressource dans la ville de Québec, on en a une ou deux à Montréal, mais c'est tout. Il n'y a pas de ressources de logement, il n'y a pas de ressources même au niveau psychologique. Il y a un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Puis, et ces personnes-là se retrouvent un petit peu, après avoir passé dans le système judiciaire, donc d'avoir confronté le proxénète, etc., elles se retrouvent un petit peu dans une situation où elles sont un peu laissées à elles-mêmes. Il y en a qui vont avoir de l'aide par les CAVAC et tout. Il y en a. Mais si on compare avec les besoins, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a énormément de besoins et il y a peu de ressources.
Il y a PIPQ.
Alors, il y a un investissement majeur à faire à ce niveau-là si on veut aider les personnes
Madame Mourani,
à sortir de la prostitution.
Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Avec grand plaisir. Au
Merci,
revoir.
Merci, Maria Mourani, donc présidente de Mourani Criminologie. Je retiens le point sur les parents qui doivent aussi suivre ce que leurs enfants font, d'autant plus que, et la presse a fait une série de reportages, là, et ont promis de s'intéresser à ça dans les prochains mois, disent-ils, le phénomène de, si on veut, d'harponnage, d'hameçonnage sexuel sur Internet avec la COVID qui s'est amplifié. Il faut que les parents regardent ce qui se passe aussi derrière les claviers d'ordinateur de leurs enfants, les téléphones.
C'est vrai, sauf que moi, à l'époque, en 2002, je veux pas remonter trop loin, mais j'ai découvert à temps plein pendant 3 ans Scorpion au Québec. Puis j'ai rencontré beaucoup de familles de victimes. T'sais, entre autres, je suis allé à quelques reprises dans une famille. La jeune fille dormait sur un matelas posé à terre. Là. Pour cette famille-là, le défi, c'était pas de surveiller les allées et venues de leur fille, c'était de mettre de la nourriture sur la table. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont très, très vulnérables là-dedans. Et c'est là qu'ils sont salauds, les proxénètes, parce qu'ils vont cibler des jeunes filles vulnérables. Puis c'est peut-être pas toujours à 100% des familles à problème, entre guillemets, si tu veux, là. Mais les pimps, ils sont des experts à spotter ces jeunes filles-là, qui ont besoin d'affection, qui ont des besoins monétaires aussi, qui manquent de l'essentiel et qui manquent d'affection. C'est là que le pimp arrive, puis il donne de l'affection, puis il donne de l'argent. Puis je dis, il donne de l'argent. Souvent, c'est... Ça va être plus des cadeaux.
Ah, parce des cadeaux.
La fille, elle va travailler entre guillemets, là, on s'entend, vous savez ce que je veux dire. Elle va rencontrer des clients pendant 2-3 mois. Elle touchera pas une crise de scène. Je m'excuse là, de l'expression parce que c'est ça la réalité. Là. Elle ne touchera pas une maudite scène. Le gars, de temps en temps, va y acheter une belle paire de souliers comme elle veut, un bijou. Tiens, ma fille, continue à travailler pour moi. Il donne même pas d'argent. Non, c'est révoltant. Je m'excuse d'avoir sacré. C'est que ça me révolte la façon que ces salauds-là procèdent encore aujourd'hui. Puis on parle d'esclavage dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Là, c'en est. C'est carrément de l'esclavage dans bien des cas. Là.
Étant donné que c'est ce qu'on appelle le plus vieux métier du monde, parce que ça a commencé avec probablement l'aube de l'humanité. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on va mettre fin totalement à la prostitution? Est-ce qu'on serait pas mieux de l'encadrer, de la rendre légale et de s'assurer que ces filles-là reçoivent des soins, sont plus victimes
pas
de
pour
proxénètes? Non, je te parle évidemment, je te parle pas je te parle pas des mineurs. Là.
Parce que la prostitution adulte, moi je dis pas que c'est à prendre à la légère, puis je te dis pas que c'est banal, puis moi je pense qu'il y a des femmes majeures aussi qui sont victimes de proxénètes, même quand elles ont 25, 26 ans.
Absolument.
Elles sont sous l'emprise d'un proxénète qui leur laisse même pas d'argent non plus. Mais les adolescents, je veux dire, il n'y a même pas, à mon avis, place à discussion. Il n'y a même pas place à dire, hey, ouais, est-ce qu'on les...
Ah non, assurément, non, mais non.
Il faut vraiment... Ouais, je sais, Nico, que tu parles de ça. Puis, mais pour les ados, prostitution juvénile, c'est répression, répression, répression. Les clients, t'es un vieux cochon de 62 ans, tu veux coucher, t'es prêt à payer pour coucher avec une petite fille de 16 ans, tu t'en vas en dedans. Mais le problème, c'est que c'est des enquêtes qui sont effectivement difficiles à faire. Là, ça semble plus facile parce qu'il y a eu des changements à la loi. Facile, entre guillemets, encore une fois. Mais à Québec, en 2002, pourquoi on a réussi à faire condamner des clients? C'est qu'il y avait du vidéo, il y avait de la filature. C'était pas juste la version de la jeune fille contre la version du client là-dedans puis du proxénète. C'est qu'il y avait une preuve pour soutenir ça. Puis ils ont mis des moyens beaucoup là-dessus. Là. Tu sais, Roger Ferland, l'enquêteur, puis Maître Lacroix qui était à la couronne. ça a été une enquête vraiment, vraiment poussée, puis ça n'a pas été facile. Il y a eu quelques acquittements.
Mais tu sais, si on parle des technologies qui facilitent le recrutement, je trouve que les technologies devraient aussi être capables de faciliter la condamnation des gros crottés, là.
Ouais.
Parce que normalement, ces rendez-vous-là se prennent par message texte. Tu sais, il doit avoir un moyen aussi de remonter. Il y a des listes de clients dans les téléphones, des PIM, puis il y a...
Clairement.
Je ne sais pas quel est le fardeau de la preuve. Mais il y a probablement moyen d'être plus sévère là-dessus. Puis sinon, pour ta question, Nico, pour la prostitution en général, moi, j'ai tendance à tergiverser un peu là, sur cette question-là. Parce que des fois, je regarde ce qu'on fait, par exemple, avec le pote.
Ben,
c'est
où
ça. On veut aller soutirer, enlever le marché du crime organisé. Et là, on dit qu'on est réussi dans une certaine proportion, bon, 50%. Est-ce que de le mieux encadrer, comme entre autres certains pays ont pu le faire, mais en même temps, il y a quand même des femmes qui vont rester pris dans l'engrenage, même si c'est légal. Là, il y en a qui disent « Ouais, on peut pas considérer ça comme un travail. » Il y a des prostituées qui vont dire « Non, moi, c'est vraiment un travail, c'est par choix. » Mais c'est quoi la proportion qu'ils font vraiment par choix versus contrainte?
C'est parce qu'on, tu sais, on va pas l'interdire complètement parce qu'on est très, on est conscient qu'il y a un besoin, entre guillemets, de pour ça, pour ce service-là. Et que autant des deux côtés, je veux dire, il y a des clients, de toute évidence, qui ont ce besoin-là.
Ben oui, pas de clients, pas de réseau, là.
Je vous rappelle qu'on a permis, on a décidé de permettre à un meurtrier qui sortait de prison de s'acquitter de ce service-là parce qu'on a jugé que c'était nécessaire.
Mais c'est épouvantable
pour sa santé mentale. Je mélange les dossiers, là, mais vous comprenez qu'on admet d'une main que c'est nécessaire. Puis de l'autre, on dit « Ah non, faut rendre ça illégal, puis il faut punir tout le monde. » Si on se mettait les yeux en face des trous et on disait « C'est un service qui a son utilité, c'est un service qui permet à certaines femmes de gagner leur vie. »
Pour les adultes.
Pour les adultes, bien sûr. C'est toujours sous-entendu ça, Jérôme, dans ce que je vous dis. Et qu'on encadrait mieux ça. T'sais, on veut toujours s'inspirer des pays scandinaves, là. Ben, faisons-le pour ça aussi.
Ouais, mais ça reste un milieu qui va être tough, même si tu légalises.
Mais il va être moins tough s'il est légal, puis que les filles peuvent aller se plaindre de l'exploitation.
Mais jusqu'à quel point tu vas pouvoir contrôler, mettons, les proxénètes, contrôler la façon dont les services sexuels décriminalisés ou légalisés vont se vendre. T'sais, prends la légalisation du cannabis, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a encore un marché noir parallèle aussi.
Ouais.
La légalisation n'a pas empêché, n'a pas fait disparaître complètement le marché noir. J'ai de la misère à faire le pas et dire on va le légaliser puis on va l'encadrer. Je comprends ton point, Nico, mais je pense que dans la réalité de le légaliser, ça serait difficile aussi. De s'assurer que tout le monde soit bien protégé là-dedans.
OK, un débat qui va perdurer. Oui. Hey, juste avant d'aller à la pause, je veux m'excuser. Je m'excuse à nos auditeurs.
Moi, je m'excuse d'avoir sacré tantôt. C'est juste que ça me... Je l'ai vécu de proche en 2002. Ça me vient encore me chercher 20 ans plus tard. Ça me démolit, ces histoires-là de prostitution.
Dans les circonstances, je pense que tu es tout pardonné. Je m'excuse à nos auditeurs du 93 à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, parce que j'ai donné la répartition régionale, puis un auditeur au 25 de 2-6 qui dit « Pourquoi vous ne parlez jamais du Bas-Saint-Laurent? C'est parce que vous êtes trop bon. » T'sais, on l'a mentionné à quelques reprises à quel point vous autres vous êtes relevés. Là, vous l'aviez échappé, entre autres, à la Pocatière. Et finalement, le nombre de cas maintenant sur une base quotidienne, là, je regarde, c'est 7. Alors, pour le chiffre, pour les gens du Bas-Saint-Laurent qui se posaient la question, c'est 7 cas. Vous continuez à être un exemple à suivre. Et salutations toutes particulières aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue, parce que votre résultat aujourd'hui, c'est moins 1. Ben oui, ça se peut, ça.
On va parler du Bas-Saint-Laurent, on va les nommer.
On va les nommer, c'est ça.
On a le temps.
Est-ce qu'on peut nommer le moins 1 de l'Abitibi? Il y a quelqu'un qui l'avait, qui finalement l'a pas.
Moins 1 cas, ça veut dire qu'il y a beaucoup de guérisons, puis pas de nouveaux cas, très peu de nouveaux cas, mais beaucoup plus de guérisons.
Non, ça, c'est vraiment le nombre de cas.
Moins
donc, ça veut dire qu'il y en avait annoncé, mettons, 2 la veille, puis finalement, il y en a un qui était un faux positif.
Ah, OK, c'est pas nécessaire.
Fait que là, c'est moins 1.
OK, je comprends.
Mais non, c'est vraiment le nombre de cas absolu.
Parce que le fax est imprimé en double.
OK.
C'est peut-être ça. 11h28, vous écoutez Trudeau Landry.